Lyon demain, créateur d'envie.
Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Chermette, explorateur lyonnais et fondateur de l'agence 80 jours voyage. Il revient tout juste d'une expédition hors du commun en Tanzanie sur le Langai, où il a participé, où il a partagé le terrain, je dirais, avec le pionnier historique du voyage volcanologique. Il s'agit de Guy de Saint-Cyr. Ensemble, ils sont allés observer l'un des phénomènes géologiques les plus étranges de la planète. Sylvain Chermette, bonjour.
Bonjour.
Vous parcourez le monde depuis des années pour observer des éruptions, mais cette expédition de juin 2026 au Langai avait une saveur toute particulière. Peut-être on peut revenir sur les origines d'abord de 80 jours voyage. C'est quoi l'idée de cette agence installée à Lyon ?
Ouais, bah l'idée de l'agence, c'était de partager avec des clients les voyages que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que je suis passionné par la nature, passionné par les volcans. Et j'ai eu envie à un moment donné de partager cette passion avec des gens que j'accompagne. Et pour ça, je me suis dit le mieux, c'est encore de monter l'agence, de monter cette agence et de démarrer comme ça, quoi.
Et ça intéresse beaucoup de monde et beaucoup de gens qui sont intéressés par les volcans au point de s'y rendre, pas de se contenter des photos.
Oui, ça reste quand même une communauté un peu de niche, mais c'est vrai qu'il y a quand même toute une communauté de passionnés de volcans. Il y a des associations qui existent d'ailleurs de passionnés de volcans. Il y a l'association de volcanologie européenne qui regroupe pas mal de passionnés en France. Et puis il y a la SVG, donc Société de volcanologie de Genève, qui est la deuxième association de passionnés francophones. Et puis il y a l'agence qui regroupe un certain nombre de passionnés quand ils franchissent le pas pour vouloir aller voir des volcans et voir des éruptions, quoi.
Pourquoi c'est intéressant d'aller voir des volcans ? Au-delà du côté esthétique, où on s'en met plein les yeux, évidemment.
C'est une façon de toucher du doigt un peu la nature brute, la force de la nature. Et c'est vrai que quand on est proche d'une éruption volcanique, on est remis à notre place, on se sent vraiment petit, on mesure la force de la nature. Et c'est un spectacle quand même qui est assez extraordinaire. Et il ressort de ça quand même un côté assez addictif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu une éruption, on a quand même drôlement envie d'en voir une autre. Si on a vu une coulée de lave, on a envie de voir des explosions. Si on a vu des explosions, on se dit tel autre volcan, c'est peut-être un peu différent. Voilà, c'est un peu la force de cette thématique, c'est que c'est une terre vivante. D'un volcan à un autre ou d'un voyage à un autre, on voit toujours quelque chose de différent et ça, c'est assez chouette.
Alors cette expédition de juin 2026 au Langai, elle a une saveur un peu particulière parce que vous étiez accompagné d'un certain Guy de Saint-Cyr, 86 ans. C'est un peu la rencontre entre deux générations de passionnés.
Oui, absolument. Donc Guy de Saint-Cyr, c'est un peu un pionnier du métier que je fais aujourd'hui. Il avait commencé, lui, en 1983, si ma mémoire est bonne. Pendant une quinzaine d'années, on a été à la fois concurrents et confrères, hein, c'est-à-dire que on avait chacun notre agence, on avait beaucoup de clients et amis communs. Puis nous, on s'est souvent croisés sur les volcans, puisqu'évidemment, on partageait la même passion. Quand son activité, lui, a pris fin, on est resté bien en contact, on est resté amis. Et là, c'était l'occasion de faire quelque chose ensemble. Alors, on a choisi d'aller sur l'Oldonyo Lengai en Tanzanie, qui est un volcan très particulier. Et c'était vraiment une super aventure, à la fois d'un point de vue volcano et à la fois d'un point de vue humain.
Comment on passe de 15 ans de concurrence à une collaboration comme celle-ci ?
Je dirais que ça s'est fait assez naturellement, parce qu'il y avait un respect entre les deux. On se côtoyait quand même, puisque on partage la même passion. On est dans la même communauté, on a beaucoup d'amis en commun. Voilà, moi j'ai beaucoup d'amis et de clients qui me parlaient de Guy en bien. J'imagine que de l'autre côté, il devait faire pareil avec moi. C'est vrai que petit à petit, comme ça, on a passé du temps ensemble. Et puis on s'est dit, puisqu'il n'y a plus d'histoire de concurrence, pourquoi pas faire quelque chose ensemble. Et c'était chouette, sur le plan humain, sur le plan symbolique. Et puis ça a été une belle réussite.
Il nous a apporté un petit peu son expérience également du terrain, entre guillemets.
Ouais, je pense qu'on a fait un bon binôme sur place. Lui, il a quand même crapahuté sur les volcans pendant des décennies. Il était venu sur le Lengai bien longtemps avant moi, et surtout avant l'éruption de 2007 qui avait complètement fait exploser le sommet. Donc il avait vu le volcan dans des conditions très différentes avant 2007. Moi, je ne l'ai pas connu avant 2007, le volcan, donc ça permettait de partager ses expériences. Lui, c'était la première fois qu'il revenait. On a pu discuter discuter de l'évolution de ce volcan, de l'évolution de ce qu'il a fait lui à une époque, ce qu'on faisait nous ensemble. Et voilà, puis pour ceux qui connaissent Guy, c'est quelqu'un qui est c'est un super orateur, un super conteur, et il attire la lumière. Donc c'est vrai qu'être avec lui au camp et puis écouter ses anecdotes d'expédition, c'est quelque chose qui était chouette pour les clients d'avoir à la fois le volcan, on va dire l'approche un peu scientifique, explication que j'ai pu apporter, et puis tout ce partage de vécu avec Guy. Bon, je pense qu'ils en ont eu pour leur compte.
Alors Langaï, c'est ce qu'on appelle la montagne de Dieu, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est la montagne des dieux en Maasai. Ouais.
Pourquoi ce volcan, il fascine autant les scientifiques et les passionnés? Qu'est-ce qu'il a de particulier?
C'est vrai qu'il est fascinant parce que c'est un volcan qui émet des laves qui s'appellent des carbonatites. C'est le seul volcan actif au monde qui émet ce type de lave. Et c'est des laves qui sont assez particulières, qu'on appelle parfois des laves froides. Alors, c'est pas froid au sens où on l'entend. Voilà, c'est autour des 600 degrés, donc ça reste quand même de la matière en fusion. Mais comparé aux volcans dont on a plus l'habitude, par exemple le Piton de la Fournaise ou Hawaï qui ont des laves plus silicatées qui sont autour des 1000-1100 degrés. Là on est presque à des températures moitié moins. Ça c'est une particularité donc au sens géologique du terme.
Et pourquoi il est moins chaud?
Alors là c'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est par rapport au contexte du rift est-africain sur lequel on est et à ce qu'on appelle des cratons qui sont des restes de vieux continent, et il y a une interaction avec ça et qui fait qu'il y a ces laves qui sont uniques, et c'est des laves qui ont été quand même assez étudiées parce que à d'autres endroits on retrouve dans les carbonatites des terres rares, notamment avec des éléments qui sont très, très utiles pour tout ce qui est optique, donc ça a été quand même pas mal étudié justement pour ça, les carbonatites, et il se trouve que les carbonatites du Lengai, je dirais fort heureusement, n'ont pas cette particularité d'être riches en terres rares, donc aujourd'hui, il n'y a pas de projet d'exploitation ou d'utilisation de ça, donc on reste dans un endroit qui reste pas très isolé et très naturel.
Pourquoi le spectacle est différent? En quoi il est différent? Et on a l'impression que plus c'est chaud et plus c'est spectaculaire finalement. C'est différent comme...
Ouais, alors je dirais pas que c'est plus ou moins spectaculaire, mais c'est effectivement très différent. Les caractéristiques de ces laves, en fait, sont justement d'une part qu'elles sont extrêmement fluides, donc c'est vrai que quand on voit les coulées, ça ressemble plus à une coulée de boue ou une coulée d'huile, donc ça peut aller très très vite, et surtout en pleine journée on n'a pas les couleurs rouges qu'on peut avoir sur les laves hawaïennes par exemple. On est vraiment sur une couleur noire ou gris métallisée qui tranche vraiment avec ce qu'on a l'habitude de voir sur les volcans, et c'est uniquement à la nuit tombée que ces coulées ou ces projections apparaissent en rouge, et pas le même rouge, pas un rouge aussi vif que ce qu'on peut voir parfois sur les images de volcans. C'est plus un rouge lit de vin, un rouge bordeaux, qui est très différent. Donc c'est un volcan qui est très esthétique pour ça, très atypique par rapport à ce qu'il fait, et qui évidemment intéresse beaucoup tous les passionnés de volcans, parce que c'est un endroit unique.
Dans cette expédition, il y a eu un moment fort, il y a eu un spectacle un peu visuel, vous avez pu constater, que vous pouvez nous décrire, faites-nous rêver un petit peu.
Ouais, ce qui a été vraiment très chouette et qui n'est pas gagné à chaque fois, c'est que en fait, faut imaginer ce cratère. C'est un cratère qui a été qui a explosé donc en 2007, et depuis il se remplit petit à petit. Et depuis 2020, il se remplit assez rapidement, à une vitesse d'à peu près 4 mètres par an.
Un cratère dans un cratère, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le volcan se reconstruit à l'intérieur du cratère, et donc dans ce cratère, il y a des cônes qui apparaissent qu'on appelle des ornithos. Ces cônes donc ils débordent de temps en temps. C'est ça qui c'est ces coulées là qui remplissent le cratère petit à petit. Et là, on a eu la chance d'être à un moment où ce cône s'était ouvert sur le haut. Donc, on voyait dans le cône un lac de lave. Et ce lac de lave régulièrement débordait vers la partie ouverte de ce cône. Donc, en remplissant le cratère et puis surtout en recouvrant toutes les pentes de ce cône à l'intérieur. Donc, c'est vrai que ça, c'était un spectacle assez inoubliable. Je dirais qu'un lac de lave, c'est déjà quelque chose de rare à l'échelle des volcans. Un lac de lave qui déborde, c'est encore plus rare. Et un lac de lave carbonatite qui déborde, je dirais que c'est une chance que peut-être on a une fois ou deux fois dans sa vie. Quoi.
Alors, bien sûr, les gens qui partent avec vous en profitent, mais pour ceux qui sont restés à Lyon ou en France ou derrière leur écran d'ordinateur, on peut voir tout ça, il y a un rendu vidéo qui est fait.
Ouais, ben bien sûr. Alors, on partage des photos régulièrement dans des articles. On collabore aussi avec des scientifiques. Moi, j'envoie par exemple toutes mes photos à un scientifique en Belgique qui a travaillé sur le Lengai, et ça lui permet de mettre à jour ses données et de republier sur l'évolution du volcan. Et puis après, ben je fais monter des petits films. Donc là, ça a été le cas. Donc on a une chaîne YouTube, donc 80 jours voyage, donc sur YouTube. On voit les images justement de cette expédition et des débordements du lac. On voit aussi en journée, donc quand ça déborde avec cette fameuse couleur un peu gris métallisé. On voit de nuit quand ça devient rouge. Et puis on voit aussi un peu le contexte de ce volcan, qui est quand même un volcan qui est haut, qui est dans la plaine du rift est-africain. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on est là-haut, on a une vue à la sur le rift, sur une bonne partie de la Tanzanie. Au loin, on voit le Mont Meru, le Kilimandjaro. Donc c'est vrai que c'est un environnement qui est quand même assez spectaculaire et vraiment chouette pour les passionnés de nature.
Votre marque de fabrique chez 80 jours voyage, c'est aussi la vulgarisation scientifique, on va dire ça comme ça. Comment on concilie à la fois l'émerveillement brut et puis justement le fait d'avoir une rigueur scientifique auprès du grand public, ces deux choses qu'on peut concilier?
Finalement, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, ou en tout cas qui correspond aux attentes de notre clientèle. On est avant tout là pour s'émerveiller, et après c'est vrai qu'on profite des moments, s'il y a un moment où c'est couvert, ou les moments des apéros, des choses comme ça, pour expliquer un petit peu ce qu'on voit, parce que c'est vrai qu'on accompagne des gens qui aiment bien voir, mais qui aiment bien aussi comprendre, et qui se contentent pas forcément de juste là vous avez un volcan, là une montagne. C'est vrai que comprendre un petit peu ces phénomènes, ça enrichit un petit peu aussi ce qu'on voit. Après, je dirais que c'est organisé dans la convivialité, on n'est pas là à se faire des conférences tous les soirs après dîner, etc. C'est plus vraiment en fonction des créneaux qui s'y prêtent, et on essaye d'optimiser les créneaux où il n'y a pas d'observation, soit parce que c'est couvert, soit parce que comme il n'y a pas d'arbres là-haut, il y a des moments où il fait très chaud sur le temps de midi, tout ça. Donc là, on peut aussi boire un coup en discutant un peu volcan, et ça se fait finalement assez naturellement.
Ah, des expéditions atypiques sur des volcans, ça veut dire qu'il faut une préparation également pour ceux qui participent. Alors vous avez l'habitude, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller sur un volcan, comment ça se prépare un voyage comme ça?
Ouais, alors il y a un peu de tout, c'est-à-dire que c'est le volcan qui décide de la difficulté ou non. Il y a des volcans qui nécessitent des treks qui sont assez difficiles, donc ça nécessite une condition physique particulière et une logistique assez particulière. Ce qui est le cas là au Lengai par exemple, on a une grosse équipe de porteurs. On monte un camp là-haut avec beaucoup de matériel, faut monter beaucoup d'eau, etc. Il y a d'autres endroits où les accès sont plus faciles, des fois avec des véhicules, etc. Donc ça ouvre la porte à des gens, on va dire, moins entraînés. Donc il n'y a pas vraiment de règles. La seule chose que j'essaye de faire systématiquement quand c'est un volcan en éruption, c'est d'essayer de rester au moins 3 jours et 3 nuits proche du cratère, proche de la zone active, ce qui permet de, si le trek est difficile par exemple, si on monte doucement, qu'on met 2 heures de plus, on va dire qu'il y a un routard ou quelque chose comme ça, c'est pas grave parce qu'on est 3 jours en haut, donc on a plein de créneaux pour observer, et du coup il n'y a pas de pression sur le groupe ou sur les derniers du groupe pour vite vite monter ou vite vite descendre. Il y a ce côté, on est là pour contempler, et donc j'essaye qu'on ait quand même beaucoup de temps sur place pour pouvoir profiter. Et l'autre avantage de ça, c'est que ça permet aussi de faire face à des conditions météo qui peuvent être des conditions météo qu'on a en montagne. Et c'est très souvent sur les nuages, par exemple, sur les volcans, pardon, qui sont un peu des points culminants dans des régions plus basses et qui souvent vont accrocher les nuages, ou avec l'humidité vont même des fois créer leurs propres nuages. C'est vrai qu'on traverse quand même un petit peu la planète pour aller voir ça. Et moi, je trouve frustrant de traverser la planète, faire un trek, être dans les nuages, rien voir, redescendre, repartir. Donc en restant 3 ou 4 jours sur place, on sait qu'on maximise nos chances d'avoir des chouettes créneaux d'observation. Je crois que c'est ce qui correspond bien aussi aux gens qui voyagent avec moi. Donc c'est un peu ce qui est d'ailleurs toujours l'ADN de l'agence, c'est de prendre notre temps, de contempler, de pas être très ambitieux en se disant on va visiter toute la Tanzanie, mais plutôt de cibler quelques parties, mais prendre le temps d'en profiter, quoi.
Avec un campement qui est quand même tout près du volcan, on voit ça sur les images.
Oui, absolument, là on est vraiment de...
On est de et dans, ça ne risque rien au niveau des émanations, au niveau de, même du risque éventuellement de...
Sur ce volcan, là, à l'heure actuelle, ça reste un volcan actif, donc on ne peut jamais parler de risque zéro. Là, voilà, on est dans le cratère, il n'y a pas de problème de gaz là où le campement est fait, parce qu'il est protégé par le cratère qui s'est construit avec l'éruption de 2007. Voilà, il n'y a pas de risque de couler, puisque les coulées risquent coule dans le cratère qu'on observe. Donc nous, on est vraiment dans un campement qui est safe. Après, on sait que c'est un volcan qui... son cycle normal, c'est de se re-remplir comme ça et de exploser de nouveau. Donc à l'échelle géologique, on sait que c'est un volcan qui de nouveau va ré-exploser dans quelques décennies. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, quand on y va, c'est très safe. Et en plus, c'est un volcan qui est quand même étudié. Et donc chaque phase explosive qu'il a eue, il y a eu des signes avant-coureurs... des crises sismiques qui ont duré plusieurs mois. Donc voilà, aujourd'hui c'est calme. Donc je peux dire qu'on y va vraiment dans des conditions de sécurité qui sont assez optimales. Quoi.
L'exploration des volcans, jusque-là, autrefois en tout cas, était réservée aux scientifiques. Aujourd'hui, ça s'ouvre également au grand public. On voit par exemple que les gens qui vont au Mont Blanc ne sont pas forcément très respectueux. Justement, ce tourisme est parfois un petit peu décrié.
Oui, alors c'est un peu pareil avec les volcans. Hein. Il y a des gens qui font les choses sérieusement. Je dirais comme ceux qui viennent avec nous, mais il y a certaines personnes aussi qui s'organisent toutes seules et qui sont tout à fait sérieuses et respectueuses du volcan et de la nature en général. Et puis comme partout, hein, on ne fait pas exception, il y a aussi des gens qui font n'importe quoi, qui prennent des risques ou qui laissent des déchets, ou voilà, et ça c'est malheureux, on est les premiers à en pâtir parce que quand il y a un accident comme en haute montagne d'ailleurs, ça relance les débats sur le fait d'interdire ou non les accès, de faire n'importe quoi ou pas. Nous, tous les clients sont systématiquement équipés avec casque et masque à gaz pour pouvoir faire face à des changements soudains de type d'activité. Alors, ça ne veut pas dire que ça protège de tout. Voilà, c'est un peu le minimum. C'est comme dans l'industrie, les EPI, c'est du matériel de sécurité. Normalement, on n'en a pas besoin. Il faut les avoir justement pour ne pas en avoir besoin. Quoi.
C'est quoi au prochain rendez-vous alors?
Là, je pars dès demain en Islande, donc pour un voyage pour la découverte des volcans islandais. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une éclipse qui est prévue le 12 août, et donc qui sera partielle en France, mais qui est totale en Islande. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu la cerise sur le gâteau pour les gens qui avaient envie de venir découvrir les volcans d'Islande. Si on peut leur rajouter une petite éclipse au passage, c'est toujours quelque chose d'assez sympathique.
Et c'est à chaque fois le cas d'ailleurs, quand vous allez dans un pays où il y a un volcan, s'il y a d'autres choses à faire autour.
Oui, on essaye, hein. C'est vrai qu'on aime les volcans, c'est un peu la porte d'entrée thématique, mais après on aime la nature au sens large, on aime de découvrir le monde. Pour reprendre l'exemple de la Tanzanie, c'est vrai qu'en fonction des plans de vol, j'essaye toujours de rajouter une ou deux demi-journées de safari sur le chemin, parce qu'il y a des superbes parcs entre Arusha, donc l'aéroport Kilimanjaro, et le volcan Lengai. Donc voilà, on essaye de visiter un petit peu ça. Le Lengai, il est au bord du lac Natron, qui est aussi très connu pour ses flamants roses, donc on va évidemment voir un peu les flamants roses au lac Natron. Il y a aussi toute une piste d'empreintes de pas de sapiens qui a été trouvée au pied du Lengai, justement entre le lac Natron et le Lengai. Ça aussi, on y va, et là ça a un aspect plus archéologique, paléontologique. Donc voilà, on va pas se priver de tous ces petits à côté qui enrichissent le reste du voyage, et c'est toujours chouette de s'ouvrir à d'autres choses.
Merci Sylvain Chermette, et on vous souhaite bien sûr de belles expéditions futures plus près de la Terre.
Merci beaucoup.